autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur nous-mêmes aujourd'hui, sur ce que nous sommes, ce que nous fûmes et ce que nous devenons carrément, avec dans notre boîte à outils de pensée, les mots pour le dire, mais aussi et surtout des chiffres, une avalanche de chiffres, des infiniment grands et des minuscules, des futiles et des essentiels. Comment tous ces chiffres, toutes ces statistiques incontournables dans notre monde devenu numérique, où tout se quantifie, comment peuvent-ils nous aider à penser ? Pourquoi philosopher aujourd'hui, c'est faire feu de tout bout, compter sur les mots comme sur les nombres et même compter nos pas puisqu'on philosophe aussi en marchant, comme nous allons le découvrir avec nos invités. Sven Ortoli de Philosophie Magazine qui vient de publier Léger Vertige, des chiffres qui donnent à penser, et Cédric Gras, écrivain voyageur et géographe, autour de la question comment les chiffres peuvent nous aider à penser. Bienvenue. Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Bonjour Cédric Gras.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous donner à penser. C'est tout le propos du premier ouvrage publié par Philosophie Magazine éditeur, Léger Vertige, des chiffres qui nous donnent à penser, dont vous êtes l'auteur, Sven Ortoli. Alors avant d'être rédacteur en chef des hors-séries de Philosophie Magazine, vous avez d'abord été journaliste scientifique, créateur de Science et Vie Junior, d'où l'idée peut-être, Sven, de philosopher à partir de chiffres, de nombres, de statistiques, quitte à nous donner un peu le vertige, c'est ça ?
Exactement. J'ai une formation plutôt scientifique et non pas philosophique. Et j'ai toujours été fasciné par les passerelles entre le monde des sciences et le monde des idées philosophiques, et le monde des idées en général. C'est-à-dire, je me suis donc constitué autour de l'histoire des sciences, de l'histoire des sciences vers l'histoire des idées, et l'histoire des idées vers la philosophie. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, enfin, je l'ai toujours cru, c'est pas seulement une pétition de principe, que ce qu'on a appelé à une époque la guerre des deux cultures, c'est-à-dire les A et les C, c'était les années 60, mais les matheux contre les littéraires, d'abord, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais il y a malgré tout, on le sait, un fossé entre les deux mondes. C'est ce que j'ai essayé de combler à ma manière.
On peut faire lien. Des philosophes peuvent nous aider à comprendre des chiffres et à ne pas être justement uniquement soumis à la dictature numérique, peut-être ?
Ah oui, bien sûr. Enfin, la philosophie est... Mais il n'y a pas que la philosophie, mais la philosophie, la sociologie, l'histoire permettent d'aborder le monde qui est le nôtre à l'aide de chiffres.
Cédric Gras, vous êtes géographe et écrivain voyageur, amoureux de la Russie, explorateur de tous les grands espaces, de l'extrême-orient russe, mais aussi de l'Antarctique ou plus récemment de la Mauritanie, on va y venir. Vous avez participé à l'ouvrage collectif, sous votre direction d'ailleurs, Sven Ortoli, Marcher avec les philosophes. La marche, le voyage, l'errance, ça permet aussi, Cédric, de penser autrement, de se décentrer, peut-être pour se concentrer sur autre chose.
Ah, je ne sais pas si on se concentre justement quand on marche, c'est une manière d'être en roue libre. Les pensées s'égarent, chose qu'on fait rarement, même quand on est concentré dans un exercice de réflexion dans notre quotidien, c'est laborieux. On mène quelque chose, on va dire une pensée ciblée. Alors que là, quand on marche, c'est de l'ordre de... Tout est possible en réalité, les pensées vont où elles vont. Et il y a quelque chose moi, qui me rappelle à chaque fois ces mantras, vous savez, dans la religion bouddhiste, une répétition, mais une répétition qui vous fait accéder à un état un petit peu, il ne faut pas employer de grands mots, mais on va dire en tout cas inhabituel, qui nous sort totalement de notre quotidien.
Oui, qui sort en fait du cadre habituel.
C'est la répétition à l'infini, il y a beaucoup de monotonie dans la marche, mais curieusement, c'est un terreau favorable au vagabondage de l'esprit.
Vous suivez le scientifique et philosophe Michel Serres qui confie qu'il pense avec ses pieds ?
Oui, bon, l'expression est amusante. Je ne sais pas si on arrive à des pensées très concrètes quand on... Vraiment, j'ai cette impression que l'esprit vagabonde. Parfois, on a quelques illuminations qu'on va noter dans un carnet. Et le reste du temps, j'ai plutôt l'impression que ça décante. Ça décante. Il y a beaucoup de réminiscences. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent comme ça en surface lorsque je marche. Mais je pense que c'est un exercice qu'il faut faire. Je pense que c'est assez salvateur, en réalité, d'aller rechercher des idées, des pensées, des souvenirs qui avaient été enfouis par les couches de notre vie qui était assez frénétique quand même aujourd'hui.
Assez frénétique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors avant de compter nos pas ou de demander aux algorithmes de le faire pour nous, je propose de commencer par compter sur nous-mêmes et sur la diversité de nos mondes autour de la question comment les chiffres peuvent nous donner à penser dans toutes les langues, des tours arithmétiques par les rédactions en langue de RFI.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Qui veut réagir à ces chiffres, hein, de 1 à 10 en chinois?
Je suis pas capable de le faire aussi rapidement. Ça va trop vite.
Ça va trop vite pour vous aussi, Sven Ortoli?
C'est très beau. Mais ça, je suis incapable de suivre, de les suivre, mais en tout cas, j'entends leur musique. Et ça me donne envie de faire des maths en chinois.
C'est ça, on s'entend bien finalement, hein, quand chacun compte dans sa langue. Alors les chiffres, les nombres, vous dites Sven Ortoli dans ce livre, Léger vertige, des chiffres qui donnent à penser, on va en citer quelques-uns parce qu'il y en a quand même d'étonnants, que ce sont d'abord des outils dans notre monde devenu numérique, on a parfois l'impression d'être submergé de chiffres, de statistiques dans tous les sens. Ce sont des outils, c'est ça?
Profondément oui. Après, ces outils peuvent vous dire des choses justes ou raconter des sottises, mais ce sont profondément des outils et c'est le seul véritable outil qu'on ait à disposition si vous voulez parler, si je puis dire, avec 7 milliards de personnes.
Bientôt 8 donc, sur Terre.
Bientôt 8, ou à l'échelle d'un pays, ou à l'échelle d'une entreprise. Donc ces chiffres vous permettent de faire des estimations, de faire des pronostics, d'évaluer le passé, et puis de vous projeter dans le futur. Voilà, ça c'est la base. Après, les chiffres c'est un langage. Il faut apprendre à le lire, il faut apprendre à en percevoir un petit peu les dangers, les écueils, mais c'est un langage.
Alors, parmi les dangers, il y a l'avalanche de chiffres qui nous tombent dessus et l'énormité de certains chiffres. Quelques chiffres que vous citez sur les informations créées chaque jour, 2,5 trillions d'octets, moi je comprends.
Oui,
ce que ça peut vouloir dire.
Ça dépasse ce qu'on est capable de calculer. On est sur des bases de milliards, de milliards, de milliards de données calculées de manière numérique, c'est-à-dire codées en 0 et 1. Donc c'est absolument gigantesque.
Là, ça dépasse notre pensée.
Ça dépasse complètement notre pensée, mais voilà, c'est une forme de... C'est une forme nouvelle de pensée, pour être exact.
Les chiffres, alors que dans la série Forme nouvelle de pensée, vous citez le nombre de caméras de surveillance sur la planète. Il y en a près de 400 millions ?
Oui, j'ai voulu regarder ce chiffre parce que j'ai choisi des chiffres, si vous voulez, pour ce livre, dans la mesure où il me parlait du monde qui m'entoure. Et me dire que nous sommes 7 milliards et qu'il y a 400 millions de caméras, alors elles sont plus concentrées en Occident, dans les pays industrialisés, que grosso modo qu'ailleurs. Néanmoins, c'est des chiffres gigantesques, oui, bien sûr.
Ce sont des chiffres qui donnent effectivement à penser. Qu'est-ce qui donne à penser? C'est leur accumulation, leur juxtaposition. C'est le fait que vous les avez triés. Alors, il y a un chapitre évidemment sur les amis, où on parle beaucoup de certains réseaux sociaux et on dit par exemple que 39% des adultes revendiquent entre 1 et 100 amis, 23% entre 101 et 250 amis, 20% entre 251 et 500, et 5% ont plus de 500 amis sur Facebook, évidemment.
Alors, là encore, ça nous amène à nous interroger sur ce que c'est qu'un ami. Mmh. Et sur le temps, si vous regardez le temps que vous pouvez consacrer à quelqu'un, surtout, plus vous avancez en âge, moins vous avez de temps à consacrer aux autres et à vos amis. Donc, vous voyez que votre cercle se rétrécit. Donc, 500 amis, c'est... Ça n'a pas le même sens que l'ami que Montaigne et la Boétie, évidemment. C'est un autre monde. C'est un monde simplement de connaissances, de relations qu'on a décidé d'appeler comme ça.
Et ça dit ça sur notre monde, tous ces chiffres, justement, sur lesquels vous avez planché, ces statistiques, elles disent quoi?
Elles nous racontent pas tellement ce que c'est qu'un ami, mais elles nous racontent notre relation aux autres, c'est-à-dire en quoi est-ce que nous allons décider d'appeler, de donner une catégorie à cette catégorie amie, qu'est-ce qu'elle recouvre? Donc, elle recouvre des réseaux sociaux, une relation nouvelle, une relation complètement disséminée, où notre moi commence à être fragmenté, à se disperser dans l'espace et dans le temps. Ça raconte tout ça, bien sûr.
Alors, autre chapitre intéressant, celui sur nos poubelles. Dites-moi ce que vous jetez, je vous dirai ce que vous êtes. Il faut que j'arrive à la bonne page, donc c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. Nombre moyen de gobelets en polystyrène jetés chaque année aux États-Unis, 25 milliards. Temps moyen de dégradation d'un gobelet jeté dans la nature, de 500 à 1000 ans, par exemple.
Oui, alors les chiffres, malheureusement, ce sont des chiffres qui sont sinistres. Et tous les chiffres sur la dégradation et sur la pollution sont absolument sinistres, et d'où qu'on les tire. Mais ils nous permettent d'évaluer quelque chose qui est important, c'est sur le thème habituel, quelle terre va-t-on laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on doit se préoccuper du futur ? Et la réponse est évidemment oui. Donc les chiffres nous permettent d'anticiper ce genre de choses. Après, est-ce qu'on les écoute ? La réponse pour l'instant est non.
90% des déchets électroniques mondiaux sont illégalement échangés ou jetés, selon une étude du programme des Nations Unies pour le développement. Donc on n'écoute pas ces chiffres.
Ah, on n'écoute absolument pas. Il y a une très jolie phrase d'un philosophe, Jean-Pierre Dupuis, sur les catastrophes, que je n'ai pas exactement en tête, mais qui dit, grosso modo, que c'est au moment où la catastrophe est arrivé que vous rendez compte que ce qu'on vous annonçait depuis très longtemps c'était déjà présent, c'était déjà dit.
La catastrophe a ceci de terrible que non seulement on ne croit pas qu'elle va se produire, alors même qu'on a des raisons de savoir qu'elle va se produire, mais qu'une fois qu'elle est produite, elle apparaît comme relevant de l'ordre normal des choses. Jean-Pierre Dupuis.
Oui, c'est la malédiction des Cassandres, c'est-à-dire toujours prédire l'avenir et ne jamais être écouté.
Autour de la question, comment les chiffres peuvent nous donner à penser et à penser déjà qu'on n'est pas tout seul. On écoute Philippe Catherine sur RFI, pas tout seul. Avec Philippe Catherine sur RFI, il n'est pas tout seul, Philippe Catherine, Sven Ortoli.
Non, je trouve qu'il dit quelque chose d'extrêmement juste, c'est que sur les erreurs, sur les erreurs conduisent à la vérité, c'est-à-dire qu'il y a derrière les erreurs tout un mécanisme qui a conduit à ces erreurs. C'est comme les chiffres, c'est-à-dire si vous voulez, vous avez des tas de statistiques qui sont complètement bidons, des calculs qui ont été faits par des chercheurs, honnêtement d'ailleurs la plupart du temps, mais qui dans lesquels il y a une part idéologique qu'ils n'ont pas vue, ou des biais qui les amènent à des résultats qui sont au fond pas forcément très intéressant, ou même carrément farfelu. Mais il n'empêche que la démarche qu'ils ont suivie, le fait qu'ils ont voulu aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire le fait qu'ils aient commis ce type d'erreur, ça nous dit quelque chose de la vérité plus générale. Et au fond, la seule chose qui compte, c'est évidemment, je ne dirais pas que c'est de trouver la vérité, c'est de la chercher.
Peu importe si on la trouve ou pas, il faut la chercher.
C'est ça la vie, quoi.
Autour de la question, comment les chiffres peuvent nous aider ou nous donner à penser? Nous sommes donc en votre compagnie, Sven Ortolier, en la compagnie également de Cédric Gras, écrivain voyageur. Nouvel éclairage sur notre sens des nombres, inné et inhérent à notre humanité, selon le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Éminent spécialiste du cerveau, il est aujourd'hui entre autres président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, auteur de nombreux ouvrages sur la conscience, l'apprentissage de la lecture et la bosse des maths.
Dans la bosse des maths, j'avais expliqué que le cerveau, effectivement, possède un sens du nombre qui est extrêmement précoce. On a maintenant des preuves tout à fait extraordinaires et nouvelles de cela. Par exemple, même des nouveau-nés de quelques heures, ils viennent de naître, ils n'ont pas encore interagi avec leur environnement. Lorsqu'ils voient quatre objets et qu'ils entendent quatre sons, ils font le rapport entre ces deux quantités. Ils sont capables de dire « c'est le même nombre ». Et si d'un côté il y a quatre objets, de l'autre 12 sons, ils disent « ce n'est pas la même chose ». Les nombres sont différents. Le sens des nombres est tout à fait inscrit dans le cerveau, au même titre que le sens de l'espace et le sens du temps. Ce sont les grands invariants qui nous sont donnés par l'évolution. Pourquoi ? Parce que ce sont des sens éminemment utiles à la compréhension du monde extérieur. Nous avons besoin d'aborder le monde extérieur avec des catégories qui nous aident à en faire sens. Et le nombre en fait absolument partie. Alors bien sûr, ce sens inné n'est pas parfaitement développé. Il va continuer de se développer tout au long de la vie de l'individu, et en particulier la révolution mentale et culturelle a été celle de créer des symboles pour les nombres qui nous permettent de référer à des nombres exacts, précis, de sorte que 17, 18 deviennent catégoriquement différents, alors que dans le cerveau du bébé ou dans le cerveau de l'animal, ils vont être confondus parce qu'ils sont très proches. À partir du moment où on distingue les nombres d'une façon catégorique et symbolique, on est dans le domaine du monde numérique que nous connaissons aujourd'hui, dont nous connaissons une expansion absolument massive.
Du sens des nombres inné chez l'être humain à la pensée symbolique jusqu'à notre monde numérique. Vous voulez réagir à cet éclairage du neuroscientifique Stanislas Dehaene?
Réagir en disant d'abord qu'il est à la fois clair, intelligent, pertinent. Et puis il travaille dans le domaine. L'un des plus brillants que je puisse citer, si j'avais à citer quelqu'un aujourd'hui dans le monde des sciences, pas seulement de son domaine. C'est lui qui est également, je crois, qui cite en tout cas des études pour dire que chez les jeunes singes macaques, il y a des notions d'arithmétique élémentaire. Donc nous avons, c'est ce qu'il dit sur le fond, nous avons ce sens élémentaire du nombre, et c'est aussi ça qui nous permet, si vous voulez, de regarder la multitude que nous sommes aujourd'hui. On passe par le nombre, on passe par le chiffre, on passe par ces ordres de grandeur qui sont faits de nombres.
Vous dites qu'au fond, normal. C'est un peu logique, une évolution logique, que notre monde soit aussi numérique que cela, parce qu'on est si nombreux, parce qu'on a ce sens inné des nombres. Enfin, il y aurait quelque chose que ça dit, effectivement, de ce qu'on est et de la manière dont on évolue. Et ça ne dit pas que du négatif, d'ailleurs.
Ah, ça ne dit certainement pas que du négatif, non, au contraire. Mais c'est une évolution qui, autrement, n'aurait pas pu avoir lieu. Enfin, il me semble. J'interviens pas sur la nature même métaphysique des nombres, mais sur le fait que si vous n'avez pas les outils pour gérer une grande population, la population elle-même, elle va commencer à se dissoudre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une quantification du réel, pour utiliser un terme plus... Et cette quantification, elle commence à la Renaissance. Elle est vraiment... Elle commence à la Renaissance et elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec cette espèce d'explosion extraordinaire, cette nouvelle Renaissance, si on peut dire, si je n'ai pas peur de galvauder le mot Renaissance, aujourd'hui avec l'Internet et avec le numérique.
Forcément vertigineux, hein, voilà pourquoi aussi vous parlez de léger vertige. Le vertige, il est pas très léger, en fait, quand on pense à notre monde numérique. Vous avez évidemment un chapitre consacré au big bad, entre parenthèses, data, hein, big bad data. Vous citez, allez, quelques chiffres comme ça au hasard, nombre de tweets par seconde, environ 8000. Nombre de recherches lancées sur Google en une seconde, environ 65000. Nombre de vidéos lancées sur YouTube par seconde, environ 72000. Nombre de sites web, 1,33 milliard. J'en ajoute juste une avant de vous laisser réagir. Selon IBM, qui a mis au point une intelligence artificielle dans le domaine de la santé, les données produites dans ce domaine sont tellement nombreuses que 80% d'entre elles sont inutilisées. Donc explosion numérique, Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, figurez-vous, puisque je vous parlais de la Renaissance, qu'une question identique, mais pas avec le même ordre de grandeur, se pose à la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a un afflux de données qui viennent du monde, en précisant encore une fois que la Renaissance, c'est pas l'Europe seulement, c'est l'argent qui circule. L'argent européen, certes, qui circule, mais c'est un empire chinois, un empire, enfin l'islam, etc. Et toutes ces informations qui circulent sont rassemblées par des gens, mais personne n'a le temps de les lire en entier. Aujourd'hui, on a ça, mais multiplié, je n'ai pas d'ordre de grandeur, mais c'est sans commune mesure. C'est ce qu'on appelle en mathématiques, c'est presque incommensurable. En réalité, ça l'est, incommensurable, mais ça reste absolument énorme. Mais ces big data aujourd'hui sont une masse de données absolument phénoménale qui peuvent nous conduire aussi bien, puisque vous citiez IBM, vers des choses tout à fait positives. C'est l'aspect pharmacon des big data, c'est-à-dire à la fois remède et poison. D'un côté, vous pouvez trouver des méthodes pour soigner le cancer. C'est ce qu'on a fait avec des chiffres de la Sécu, de la Sécurité sociale. Des chercheurs ont établi une corrélation entre un cancer de la vessie et un médicament contre le diabète qui était utilisé, côté pile. Et côté face, vous avez ce qui se passe en Chine en ce moment, pas seulement. Vous avez Cambridge Analytica qui s'est servi des données des clients d'Amazon et d'ailleurs. Mais en Chine, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'ils ont appelé, permettez-moi d'essayer de retrouver le titre, le Social Credit System, le système de crédit social. Je l'ai pris en anglais simplement parce que je ne lis pas le chinois, donc je le lis en anglais.
Et qu'est-ce que c'est que
ça? C'est un système qui est à l'étude dans une dizaine de villes. Les villes en Chine, c'est assez grand, c'est pas des petites villes. Il y en a une qui est plus petite que les autres, qui fait 700 000 adultes et qui est vraiment la plus petite, c'est sur laquelle ce système de crédit est utilisé. Il s'agit de donner à chaque adulte un certain nombre de points qui correspondent à son niveau de confiance. Le niveau de confiance de fiabilité. Fiabilité sociale, fiabilité politique, fiabilité... est-ce qu'il traverse au feu rouge ou est-ce qu'il tient la porte... je ne sais pas si en Chine on tient beaucoup la porte, mais est-ce qu'il se comporte avec... Est-ce qu'il est capable de sauver un chien, d'aider...
Là, il aura beaucoup de points. Là.
Oui, il aura beaucoup de points. Et ces points lui permettent d'avoir accès à plus de rapidité pour aller dans un hôpital, pour avoir un rendez-vous, dans des clubs de mise en forme. Il a comme ça des petits incentives qui lui sont donnés. Et d'un autre côté, s'il ne se comporte pas bien, eh bien, sa cote de popularité diminue. Il peut avoir...
Il n'aura plus accès à grand-chose, en gros.
Il n'aura plus accès à grand-chose. Et il y a un espèce de slogan que j'ai lu encore en anglais, mais qui dit « Permettre à ceux qui sont fiables de se balader où ils veulent sous le ciel, alors que ceux qui ne sont pas fiables auront de plus en plus de mal à avancer. » Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que y a des gens dans une ville, je ne sais plus laquelle, Shenzhen peut-être, qui ont leur visage et leur carte d'identité qui tout d'un coup apparaît comme sur Times Square, vous savez, sur un écran géant. Avec indication de leur...
Oui, parce qu'en plus, tout le monde peut avoir accès à votre taux de fiabilité.
Exactement. L'idée, c'est de transformer... Et vous voyez, c'est un...
C'est le meilleur ou le pire des mondes chinois possible ?
C'est, à mon avis... Alors, pour les Chinois défendent ce système en disant « C'est à l'essai, on verra en 2020 ou 2021, c'est à l'essai, mais... » Ça sera le meilleur des mondes possible parce que vous pourrez vous balader, vous aurez plus confiance les uns les autres, etc. Et évidemment, c'est une dystopie terrifiante.
C'est le contraire d'une utopie.
C'est le contraire d'une utopie, c'est 1984, c'est la première à laquelle on pense, c'est le meilleur des mondes. Et c'est une autre dystopie qui s'appelle Un bonheur insoutenable de Ira Levin, qui est l'auteur de Rosemary's Baby, qui a écrit ça dans les années 60 et qui décrit un monde qui est dirigé par un ordinateur et qui attribue aussi des points aux bons citoyens et de mauvais points aux mauvais citoyens. Ça, c'est aussi les big data. Mais les big data, c'est... Mais là encore, qu'est-ce qui va creuser dans les big data ? Qui sont les mineurs de fond ? C'est des humains, bien sûr. Il y a les algorithmes qui pilotent tout ça, puisque nous sommes dans une société algorithmique. Les algorithmes sont créés par des humains. Bien sûr, l'intelligence artificielle progresse, mais on est... C'est un monde qui est dirigé par des humains, et donc c'est vers eux qu'il faut se tourner.
Autour de la question, pourquoi les chiffres, les statistiques et tous ces algorithmes qui nous calculent peuvent tout de même aujourd'hui donner à penser, à repenser même les sciences humaines et sociales. Nouvel éclairage, c'est celui du sociologue Alain Ehrenberg, auteur de La fatigue d'être soi et de La société du malaise, qui était récemment notre invité.
Actuellement, les sciences sociales réfléchissent beaucoup à comment travailler avec les big data, tant sur le plan méthodologique, qu'est-ce que ça peut apporter, que sur le plan éthique. Ça s'agite beaucoup en sciences sociales sur ces questions-là, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a une vraie nouvelle puissance dont il faut faire quelque chose.
Une nouvelle puissance, c'est le moins qu'on puisse dire, Sven Ortoli, mais qui sert aussi effectivement les chercheurs en sciences humaines qui s'y intéressent, parce qu'évidemment, il y a des données extraordinaires.
Il y a des données extraordinaires. La catégorie, enfin l'éthique, est absolument essentielle pour aller travailler sur ces données, penser simplement comment on va l'utiliser. Mais oui, c'est un monde d'une incroyable richesse, et c'est un monde qui est aussi dangereux. J'ajoute simplement que les chercheurs en sciences sociales, puisqu'on avait évoqué le fossé entre les deux cultures au tout début, c'est évidemment une des passerelles possibles, et elles sont nécessaires. Vous voyez, Michel Serres, que vous citiez tout à l'heure, me disait il y a relativement peu de temps de regarder, ce qui est assez fascinant, où le grand campus de sciences est du côté de Saclay, Gif-sur-Yvette, etc., au sud de Paris.
À côté de Paris.
Et le futur campus des sciences sociales, il est au nord de Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'on a écarter deux mondes qui devraient être au contact en permanence. Alors, c'est un peu caricatural de le voir comme ça, mais je trouve que c'est dans ce genre de caricature qu'on arrive à trouver à creuser,
Parce que justement, s'ils étaient en contact, ça permettrait d'avancer, de penser autrement, que l'un nourrisse l'autre, que les chiffres nourrissent les concepts et les mots, évidemment.
Tout à l'heure, on parlait de la pensée en marchant, je trouve que Cédric a raison, on pense, ça dépend ce qu'on appelle penser, il y a un vide quand on marche, parfois, en tout cas, moi, c'est souvent, mais est-ce que ce vide est séminal ou pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment ça nous conduit vers quelque chose, c'est tout à fait possible, c'est même comme ça qu'on marche, qu'on pense.
On marche ou qu'on pense, c'est la même chose. On va y venir, continue dans le léger vertige, autour de la question pourquoi les chiffres et la marche, tiens donc, peuvent aussi nous donner à penser l'ailleurs, on va aller voir ailleurs, avec la rappeuse franco-mauritanienne Aïssat sur RFI.
Mama, il faut que je te parle. J'ai la gorge qui me serre quand ils font pas bon ta part. Mes frères me font des misères. N'appuie pas, ça me fait mal. Ce bleu ne date que d'hier. Tu t'entêtes à me répéter que c'est normal. J'irai voir ailleurs. Tant pis, moi, j'irai voir ailleurs. C'est tout. J'irai voir ailleurs. Tant pis, moi, j'irai voir ailleurs. Et puis c'est tout, 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 tout. Bonjour, madame. J'ai besoin de votre aide, diplômé mais sans taf. Je me retrouve dans la merde. À moi que je couche dehors, une chambre ferait l'affaire. Ne me faites pas croire que ce n'est pas de votre sort. Ou j'irai voir ailleurs. Tant pis, moi j'irai voir ailleurs. C'est tout, j'irai voir. T'es vieux, mais pas si moche. On pourrait marcher à deux. Le temps que je me rabiboche, je te demande pas la vie de rêve. Mais t'en vendrais un peu. Juste le temps que je me relève, je te jure après, j'irai voir ailleurs. J'en supplie patron, y'en a que pour quelques semaines. Après il naîtra le con, ira chez sa marraine. Trop besoin de mon pourboire, c'est pour ça que je me saigne. Mais si vous êtes sûr certain que c'est trop tard, j'irai voir ailleurs. Je m'en fous moi, j'irai voir ailleurs. Et puis c'est tout.
Sac- sacrée voix d'Aïssat sur RFI qui nous emmène ailleurs entre France et Mauritanie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Sven Ortoli et Cédric Gras, autour de la question comment faire un pas de côté pour nous donner à penser. C'est en cheminant, en marchant avec les philosophes, pour reprendre le titre du second livre publié par Philosophie Magazine Éditeur, que la pensée peut aussi se construire et vagabonder. Cédric Gras, le géographe et écrivain voyageur que vous êtes, a un peu délaissé les terres russes, hein. Vous êtes très amateur de Russie et d'Extrême-Orient russe pour le désert mauritanien. Vous publiez un texte en demi-teinte sur une marche en Mauritanie que vous avez faite en groupe pour la réouverture justement de ce pays au tourisme.
Oui, mais moi j'ai écrit beaucoup sur la Russie, c'est pour ça qu'on m'associe toujours à la Russie. Mais moi je suis comme dans la chanson, là, j'irai voir ailleurs, aucun problème, je vais partout où vous voulez, en Antarctique, au Venezuela, j'ai été dans beaucoup de pays. La différence, c'est que j'ai vécu en Russie, que je parle russe, alors je me sens plus pertinent et compétent pour écrire sur ce pays. Voilà.
Vous êtes aussi un peu alpiniste, donc vous aimez bien aller monter.
Alors quand on m'a proposé d'aller en Mauritanie, moi j'ai dit oui tout de suite, tout m'intéresse, je suis très curieux, et alors j'irai voir ailleurs. En fait, c'est mon refrain. Ouais. Je vais me dépêcher d'aller acheter le disque de cette jeune femme. C'est
magnifique voix. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, ailleurs? Vous êtes écrivain, voyageur, géographe. Vous cherchez quoi en Mauritanie ou ailleurs?
Une certaine compréhension du monde. Il y a de la curiosité, mais c'est évidemment que c'est une quête qui est assez vaine, hein. La compréhension du monde, ce n'est pas destiné à aboutir à quelque chose, mais il y a quand même une idée, en savoir un petit peu plus, parce que notamment, on parle beaucoup du numérique là, mais on a je ne sais pas combien de kilos, de millions de kilos octets qui nous arrivent, qui nous tombent dessus en permanence, avec des informations qui sont présentées comme elles sont présentées. Je crois que c'est là une des grandes vertus du voyage aujourd'hui, c'est quand même d'aller voir de ses propres yeux, parce qu'on aurait tendance... J'entends souvent, moi, des gens nous disent, mais ça sert à quoi de voyager? Il y a YouTube, il y a des caméras, on nous envoie des vidéos, des films, de la musique, etc. Oui, mais enfin, c'est une information qui n'est pas celle que vous auriez formée, puisque celle-là, elle est peut-être formatée.
Et justement, quand vous êtes arrivé dans ce désert mauritanien que vous ne connaissiez pas, qui se rouvre actuellement un peu au tourisme, vous pensiez, en bon écrivain voyageur, partir sur les traces de Théodore Monod, et puis...
Oui,
et
moi,
puis,
j'ai toujours ce défaut terrible des gens qui lisent, qui est celui de la littérature et des classiques de la littérature de voyage. Bon, mais je m'en doutais un petit peu. Je sais bien que Théodore Monod, ça fait déjà... Enfin, c'est pas si vieux que ça, d'ailleurs. Mais il y a eu une telle accélération du monde et de l'histoire que tout ça a pris un coup de vieux très, très vite. J'avais dans mes bagages notamment les textes de Odette Dupuy-Godon. Ça, c'est encore plus vieux. C'est les années 30.
Que vous m'avez fait découvrir une exploratrice incroyable, très juste.
Puis les années 30, c'est l'époque quand même de Schwarzenbach, de David Neal. Enfin, il y avait des femmes voyageuses extraordinaires à l'époque. Oui.
Qui marchaient et qui décalent complètement le regard.
Ah, ça décale et puis ça permet aussi de comprendre ce qui s'est passé. On parlait tout à l'heure d'écologie. Moi, quand je suis arrivé dans le désert, j'ai compris tout de suite, et les Mauritaniens sur place me l'ont confirmé, le désert est vide aujourd'hui. Alors que quand on lit Odette Dupuy-Godot, il y a encore des fauves, il y a encore toute une faune qui aujourd'hui a totalement disparu. Et dire que le désert est vide, ça paraît être enfoncer une porte ouverte,
mais à une époque,
ça ne l'était pas. Voilà, alors qu'aujourd'hui, effectivement, il est vraiment vide. Alors, il y a des hommes, et encore, les hommes ont tendance à reflux. Je lisais aujourd'hui que la Mauritanie en ce moment a un gros problème avec son cheptel. Ils connaissent une sécheresse visiblement très importante, même sur les frontières du Sénégal, qui en général est la région en Mauritanie la plus verte. Donc même les hommes, je pense, vont finir par quitter cette zone sahélienne. Et ça, c'est un des drames du réchauffement climatique.
Donc c'est ce que vous voyez en marchant. Marcher, ça vous permet aussi...
On le constate effectivement en allant marcher. Là, c'est pas juste des informations qui nous tombent dessus. Voilà
c'est une manière aussi d'avoir quoi, d'avoir votre corps impliqué et pas seulement votre tête pour vous qui écrivez aussi. Ça inclut
oui,
la marche.
Pour moi, le paradis de l'écrivain voyageur, c'est quand le corps est impliqué. Et l'esprit avec. C'est bien pour ça que je prends des livres aussi avec moi. Parfois, on peut, quand on commence à divaguer, au début, la marche nous fait penser, réfléchir, et puis à un moment, on divague. Moi, je finis par me fatiguer moi-même. C'est là qu'il faut aller chercher la pensée des autres. Et la pensée des autres, elle est souvent dans des livres, en tout cas quand on voyage seul. Alors, on peut être avec des camarades de marche, mais on va épuiser assez vite aussi leur matière, surtout si elle est irréfléchie, spontanée, comme dans le cadre d'une discussion. Donc les livres, c'est toujours un recours. C'est très important pour moi d'avoir des livres en voyage. C'est ce que j'ai fait effectivement en Mauritanie.
Sur une nouvelle question justement, sur ce lien entre la pensée, ça peut être la lecture, mais la pensée et la marche, au géographe que vous êtes, question soulevée par un autre neuroscientifique, Lionel Nakache, qu'on écoute.
La question que j'aimerais vous poser autour de marcher et philosopher, elle provient d'un angle de vue qui est le mien, c'est-à-dire qu'en neurosciences, on a découvert depuis assez longtemps maintenant, mais on précise quotidiennement presque, les liens très étroits qui existent entre d'un côté la navigation dans l'espace, donc le fait de se promener dans un lieu, de déambuler, donc l'orientation dans l'espace, la mémoire spatiale, la navigation spatiale, on a des réseaux, un GPS cérébral, et des fonctions telles que la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité à se souvenir de ce que nous vivons, et également la capacité à penser de manière originale. Donc autrement dit, on découvre des liens qui étaient intuitionnés, mais dont on commence à connaître les rouages biologiques, entre d'une part l'activité de déambuler, de se déplacer dans un lieu, et d'autre part l'activité à construire une mémoire subjective. Donc là-dessus, si on ajoute le partenaire de la philosophie, hein, pour, comme péripapéticien, est-ce que ça renverrait simplement à cette capacité, ou est-ce qu'il y aurait d'autres vertus de la marche autour de la pensée ?
Est-ce que vous pouvez répondre quelque chose, Cédric?
C'est élaboré comme question. Il y a beaucoup de mots très compliqués, il faudrait que je prenne mon dictionnaire. Est-ce que Philosophy Magazine va publier un dictionnaire de la philosophie?
Sven Ortoli, vous pouvez répondre à Lionel Nakache sur cette...
D'abord, je trouve très intéressant ce que dit Nakache. Moi, il me semble que la marche, je ne saurais pas répondre à ce qu'il dit, mais je peux avoir une intuition, c'est que la marche permet, au sens le plus strict du terme, d'avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, ce que ça me dit, c'est qu'à un moment, en marchant, je suis en prise avec la terre, au sens plus strict du terme. C'est-à-dire, je suis en prise avec le cosmos, au sens grec du terme. C'est-à-dire, le monde qui m'entoure, je le ressens. Comme je vis dans un monde qui est très, comment on peut dire, hors sol, avec des racines un peu dispersées. Et regardez ce que disait Cédric sur les nombres. C'est vrai que lorsqu'on marche, le réel, vous le prenez dans vos jambes, vous le prenez dans vos bras, vous le prenez en direct, toutes les informations, les odeurs, les bruits, tout ce qui vous arrive, vous êtes obligé de le stocker immédiatement et de le processer, en quelque sorte, si je puis prendre cette métaphore. Donc, la marche, ça apporte cette relation qui est plus difficile à avoir, à entretenir, pour être plus exact, lorsqu'on ne marche pas, il me semble.
Vous qui voyagez beaucoup, Cédric Gras, vous ne faites pas que marcher, hein. Alors, on dit que vous êtes aussi alpiniste, mais la marche, vos pieds, c'est un des moyens de transport.
Oui, mais d'abord, c'est le moyen de locomotion premier de l'homme.
C'est ça.
Donc, c'est assez naturel que d'y revenir. Ça ne semble pas naturel à beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, mais c'est une réalité. Moi, j'ai toujours conçu ces voyages à pied comme des promenades, tout simplement. Alors, évidemment, on n'a pas cette conception de la promenade. Une promenade, c'est le dimanche en famille dans un parc. Mais
c'est quand même pour aller d'un point à un autre, ou même pas toujours?
Justement, pas forcément. Oui, enfin, si, on sait à peu près où on va, on sait quand est-ce qu'on revient. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la promenade, il y a cette idée de penser. Enfin, en tout cas, d'aller faire décanter des pensées. Moi, je me souviens de mon grand-père, quand il était un peu furax, il sortait pour se reposer l'esprit, pour ne pas réagir instantanément sous l'emprise d'une colère, mais pour revenir en ayant l'esprit un petit peu plus modéré. Alors ça j'y crois beaucoup, et je crois que des voyages, même une semaine de marche en Mauritanie, quelque part c'est une promenade. On peut avoir l'humeur à voyager, l'humeur à partir une semaine dans le désert, et cette idée de la promenade, alors moi je ne connais pas très bien l'histoire de la philosophie, mais enfin si je ne me trompe pas, un philosophe comme Kant avait un programme dans sa journée très précis, notamment il y avait toujours une petite promenade, et je crois que la promenade est très importante dans la philosophie.
Pour aérer l'esprit?
Bien sûr, pour aérer l'esprit, oui.
C'est vrai en science aussi. Il y a la fameuse promenade d'Einstein et de Gödel, le mathématicien, qui était pas très longue, 1,5 km, dans l'après-midi, presque tous les jours. Et durant laquelle ils discutaient tout le monde les regardait en se disant, ils doivent se raconter des choses absolument extraordinaires. La réalité, c'est qu'on n'en sait pas. Pas beaucoup plus. Mais on aime bien fantasmer là-dessus.
Ils vagabondaient, en tout cas, tous les deux. Pour en revenir à la question des chiffres, et puisqu'on est dans le voyage, le tourisme, peut-être pas la promenade, vous citez dans ce chapitre voyage, hein, de Léger Vertige, Sven Ortoli, comment les chiffres nous donnent à penser. Le nombre de touristes internationaux en 1950, ils étaient 25 millions. C'est déjà pas mal. En 2016, 1,235 milliards. Alors rien que ça, ça nous montre à quel point le monde a changé. Si on donnait des chiffres aussi sur des chiffres statistiques sur les pays d'origine de ces touristes, je suis sûre qu'on verrait aussi que ça a bien changé. Il n'y a pas seulement le nord qui va au sud, mais il y a le sud qui va au nord. Oui. Ça dit énormément de choses aussi.
Ça raconte des changements géopolitiques, évidemment. Ça raconte des rapports de force nouveaux. Et puis, ça raconte principalement une sorte de vision du monde globale qui est celle d'un monde de touristes qui me fait penser un peu à ce monde des croisiéristes, parce que il m'est arrivé d'aller en faire des croisières, de participer à des croisières philo, et où tout d'un coup, il y a une parenthèse qui s'ouvre et qui se ferme, c'est-à-dire qu'on oublie la mort pendant... Elle peut survenir quand même, mais on l'oublie pendant...
On oublie la mort parce qu'on part, on est ailleurs
qu'on a un début... Et théoriquement, on a une fin. Et cette fin, on est censé la maîtriser. C'est comme ça que... Enfin, c'est cette conversation qui m'amène à cette réflexion. Mais il me semble que c'est quelque chose... Ça fait partie des choses importantes qui surgissent dans ces voyages organisés, ces voyages qui sont aseptisés dans une certaine mesure, qui sont très agréables à certains égards, mais qui sont aseptisés.
Vous vous y reconnaissez dans le terme touriste? Non, un écrivain voyageur, c'est pas un touriste.
Oui, moi j'accepte volontiers. Là, vous me dites que je suis un écrivain voyageur. Il y a plein d'écrivains voyageurs qui disent qu'ils sont des écrivains tout court. Moi, je me laisse appeler comme vous voulez. Si je suis un touriste, je suis un touriste, ça ne me dérange pas tellement.
Peu importe, du moment que vous pouvez aller ailleurs.
Oui, si vous voulez. Non, mais surtout, c'est la cage qu'on coche quand on passe les douanes. On n'est pas des explorateurs, on n'est pas des alpinistes, on n'est pas des voyageurs. Le douanier, vous êtes qui? Des affaires ou du tourisme? Bon, bah, tourisme, point, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y a une case pour ça. Sinon, on peut débattre de différences entre le voyage et le tourisme, si vous voulez, si vous avez une minute. Mais...
On va s'arrêter sur la question du vagabondage et comment ça pourrait nous donner à penser et à avancer en écoutant Jane sur RFI. C'est votre choix, Sven Ortoli, comme. Jane sur RFI, pourquoi ce choix, Sven Ortoli?
Parce que j'ai eu l'envie et la curiosité de demander à ma fille qui a 14 ans de me dire ce qu'elle écoutait comme musique. Et
oh, elle a bon goût.
C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas suffisamment pour avoir envie d'écouter.
Autour de la question comment nous donner à penser sans compter et en marchant, je propose un dernier éclairage vagabond lui aussi. C'est celui du physicien Yves Quéré, fondateur avec le prix Nobel Georges Charpak de la main à la pâte. Ce savant humaniste, passeur de sciences, grand éveilleur de curiosité, aime particulièrement cheminer au sens propre comme au sens figuré.
La culture, au fond, c'est la marche. C'est-à-dire que la culture est tout sauf la fixité. Quand on parle d'un homme cultivé, c'est un mot qui me gêne beaucoup parce que c'est un homme qui, sans doute, sait beaucoup de choses, mais c'est un participe passé, presque figé et fixé. Donc, je crois que la culture, c'est justement le contraire de cela, c'est aller vers. Donc, d'ailleurs, on retrouve ça dans l'étymologie de culture, urus, destiné à... Comme futur, c'est ce qui sera, aventure, c'est ce qui va advenir, etc. Donc, culture, c'est ce qui doit être cultivé. Donc, la marche, je crois, va complètement avec l'idée de culture. Alors ça, c'est une idée un peu abstraite, mais plus spécifiquement, oui, moi, j'aime beaucoup marcher, et j'ai un petit peu cette impression-là quand je marche, que je vais quelque part. Ce qui est banal, mais enfin, encore faut-il y penser.
encore faut-il y penser. Cédric Gras, vous voulez réagir à cet éclairage?
Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il ne faut pas trop théoriser la marche. La marche, ça reste aussi un plaisir.
Il faut mettre un pas
dans physique,
l'autre.
Hein, oui, ouais. Oui. Mais globalement, je suis tout à fait...
D'accord. Alors à propos de déplacement, hein, pour ne pas rester dans la fixité, vous consacrez aussi, Sven Ortoli, dans ces chiffres qui nous donnent à penser, un chapitre évidemment aux migrations. Migrations internes comprises, il y a eu 1 milliard de déplacements dans le monde en 2013. Dans tous les sens. Ça aussi, ça dit quelque chose de notre monde où certains migrants et certains ont le droit de se déplacer et d'autres beaucoup moins.
Oui, bien sûr, ça dit quelque chose sur la question des frontières, sur ceux qui voudraient. Dans l'idéal, le touriste, c'est un peu comme la société chinoise que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, dans l'idée, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les mauvais. Il y a ceux qui ont droit. Je ne dis pas que c'est. Je suis en train de faire un plaidoyer mondialiste. C'est juste. Dire, voilà, il y a plusieurs catégories de personnes. En fait, en réalité, il n'y a pas seulement deux catégories de personnes, c'est-à-dire ceux qui peuvent voyager comme ils veulent et les autres, mais ça fait partie des oppositions qui existent. Et dès que vous regardez les chiffres sur l'immigration, vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question des frontières, ne pas vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce que nous-mêmes, dans les pays en Europe, est-ce que en Europe du Sud, on ne sera pas contraint de se déplacer vers le Nord parce que il y aura aussi des réfugiés climatiques. La question de la migration est une question évidemment centrale aujourd'hui. Non seulement centrale de la politique française ou de la politique italienne, comme on a pu voir il y a très peu de temps, mais centrale de ce que le monde est en train de devenir.
Sur le continent africain lui-même, le nombre de gens qui voyagent, qui se déplacent, pour toutes les raisons possibles et
pour
imaginables...
Pour toutes les raisons possibles et
ce que mettent en avant aussi tous ces chiffres, et ce qui nous donne aussi le vertige, ils mettent aussi en avant les inégalités grandissantes. Enfin, à la fois ce qui va pas, parce qu'il y a plein de bons signes et il y a plein de très mauvais signes aussi.
Il y a beaucoup de très mauvais signes. Et oui, bien sûr, le fond du problème, c'est encore une fois une société qui a même pas deux vitesses, qui a 20, 30, 40, 50 vitesses. Et ceux qui sont vers le bas, et en particulier, vous citiez l'Afrique, oui, bien sûr, il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés climatiques, il y a des gens qui fuient le Boko Haram, d'autres qui fuient... Il y a tout, et ces chiffres-là, justement, ils ont quand même cette vertu, c'est que ils ont une... les chiffres, parfois, ont une force. Ils permettent de parler d'un sujet. Vous voyez, il y a une catastrophe au Sahel, une catastrophe en Afrique du Sud. Si, derrière, vous l'appuyez sur des chiffres qui... ça peut à la fois déshumaniser, mais aussi réhumaniser, en quelque sorte, ce qui se passe. Enfin, c'est mon sentiment.
Quel est votre rapport aux chiffres, à vous, Cédric Gras?
Ah, mais j'écoute, moi, passionnément tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup les chiffres. J'écris aujourd'hui, mais j'ai fait un bac S, et j'ai fait des études de géographie, et ça n'a pas l'air comme ça, mais on fait beaucoup, notamment, de statistiques, et puis c'est sans parler de la cartographie, de l'imagerie aérienne, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup, moi, manipulé des chiffres. J'étais peut-être pas très doué, c'est bien pour ça que je suis content que ça fasse partie de nos sens innés, parce que pour l'acquis ça a été plus compliqué, mais moi j'aime beaucoup les chiffres. Et puis quand je me déplace, alors aujourd'hui on a plus ce rapport concret avec la carte et avec l'orientation, parce qu'on a des GPS et on sait plus très bien en fait sur quelle latitude, quelle longitude on est, parce qu'on a une flèche qui nous montre où est-ce qu'il faut aller. On a même plus besoin d'orienter la carte par rapport au nord, mais moi j'essaye de garder quand même de faire attention quand même aux latitudes sur lesquelles je me trouve, d'avoir des chiffres en tête. Par exemple, le cercle polaire c'est 66-33, etc., etc. Je veux savoir, ça m'intéresse.
Ça peut aider à garder le cap. Merci beaucoup, Cédric Gras. Merci, Sven Ortoli, d'être venu en direct partager toutes ces pistes alternatives pour penser, repenser le monde et nous qui y vivons. Je rappelle le titre donc de ces deux ouvrages édités par Philosophie Magazine Éditeur, une nouvelle collection. Le vôtre, Sven Ortoli, Léger Vertige, avec un très joli dessin de Sampé en couverture, des chiffres qui donnent à penser, et puis Marcher avec les philosophes, édition augmentée avec votre récit d'une marche dans le désert mauritanien. Cédric Gras, merci à vous et
merci.
Bonne route à tous les deux.
Merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, pourquoi la musique fait swinguer nos neurones? Pourquoi nous fait-elle tant de bien entre les deux oreilles? Notre cerveau serait-il mélomane? Réponse neurologique et musicale à écouter et à partager ensemble. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une minute.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.